Rendez-vous avec la rédaction de Politis sur Radio Orient.
Comme chaque semaine, votre rendez-vous avec Politis, la une de l'hebdomadaire, luxe blanc et misère noire, notre enquête 2 ans après l'incendie meurtrier de Courchevel. Denis Siffer, bonjour. Votre édito, l'effet Navalny, l'opposant russe Alexeï Navalny, qui a survécu à une tentative d'assassinat, mettant en cause les services secrets russes. Il est retourné en Russie où il a été immédiatement arrêté après avoir été soigné en Allemagne. Et aujourd'hui, Alexeï Navalny est sans doute, écrivez-vous, protégé par le poison qui ne l'a pas tué et par sa notoriété internationale. Vous faites référence aux mouvements qui ont accompagné son arrestation.
Protection qui est toute relative, hein. Il est quand même sous la menace d'une lourde condamnation. Et enfin bon, on peut imaginer et espérer qu'on ne va pas l'assassiner dans un commissariat de Moscou. Il a une notoriété internationale, en effet, qui protège sans doute un peu maintenant. Il y a eu des protestations de l'Allemagne, de la France, des États-Unis même. Et puis il y a eu les manifestations qui ont été un succès tout de même dans une centaine de villes russes. Et puis il va être difficile de l'empoisonner une deuxième fois hein, quand même. Alors que c'est pour ça que j'use cette formule un peu ambiguë du poison qui ne l'a pas tué. Donc on peut imaginer qu'il est il a une forme de protection en effet, mais qui ne lui épargnera pas forcément une condamnation à la prison.
Oui, c'est ce que vous dites, hein, quand vous vous interrogez jusqu'où peut aller l'effet Navalny. À court terme, pas très loin, mais le danger pour Vladimir Poutine, c'est, écrivez-vous, l'usure.
C'est l'usure parce que, en fait, Poutine fonctionne depuis qu'il est au pouvoir pratiquement sur un esprit de revanche par rapport à l'humiliation et la déchéance que la Russie a connue après le démantèlement de l'URSS, puis une espèce de triomphalisme américain, libéral, etc. Donc il a redonné de mauvaise façon, par de mauvais chemins d'ailleurs, une certaine idée de la puissance russe sur la scène internationale, etc. Donc ça, c'est vraiment son patrimoine politique, je dirais, qui est assez délétère d'ailleurs, parce que on a vu ce que ça a donné en Syrie et dans quelques autres endroits. Mais ça a plu la population, fait qu'il rende le lustre passé, disons, à la puissance russe. Mais ça entre en concurrence avec la question économique, la question sociale. On a vu les grandes manifestations au moment de sa réforme des retraites, plus effectivement les questions des libertés politiques. Donc il y a un moment donné, et on est probablement à ce moment un peu de bascule, où l'idée que Poutine rend sa fierté à passer, disons, à la Russie, va s'user, ne servira plus suffisamment pour lui garantir, disons, un maintien au pouvoir. C'est pas tout de suite, et c'est pas forcément avec Navalny que la chose va se faire, mais à certains égards, il y contribue.
Mais vous évoquez le mythe de l'homme fort, vous revenez sur la datcha qui lui est attribuée sur les bords de la mer Noire, et il n'est pas sûr, écrivez-vous, que le palais dispendieux de la mer Noire ne vienne renforcer ce mythe de l'homme fort.
Oui, c'est-à-dire que ce que Navalny dénonce comme étant le plus gros pot de vin du monde, cette datcha. Bon, depuis, Poutine a nié qu'elle était sa propriété. Bon, on peut penser qu'elle n'est peut-être pas sa propriété au sens légal du terme, mais il en jouit sans aucun doute. Donc on peut penser en effet que en une partie de l'opinion russe, ça fasse partie justement du mythe de l'homme fort, espèce de splendeur d'un personnage comme ça inflexible et qui a tous les attributs, disons, du tsar, finalement, parce qu'on a souvent utilisé cette image, mais elle n'est pas entièrement fausse. Mais en même temps, dans une autre partie de l'opinion, ça peut être totalement révoltant par rapport à la grande misère que connaît la Russie actuellement. Et donc on a vraiment là dans ce symbole de cette espèce de palais dispendieux l'opposition entre à la fois l'argument de Poutine de la puissance, de la splendeur, je dirais même, qu'il incarnerait, et en même temps du mépris social et surtout de la corruption, parce que c'est quand même, c'est d'ailleurs le fer de lance de la bataille de Navalny, qui est un blogueur anti-corruption au point de départ. Et donc tout ça s'oppose et se concentre, se cristallise sur cette vidéo très impressionnante que l'équipe de Navalny a réalisée autour de cette dacha sur la mer Noire.
La contestation, le tout sauf Poutine, peut le conduire aux alliances les moins recommandables?
Oui, alors Navalny est un personnage intéressant parce qu'il il symbolise aussi, d'une certaine façon, comme Poutine d'ailleurs, enfin paradoxalement, l'État démocratique ou antidémocratique, disons, de la Russie, dans la mesure où les partis politiques sont pas, non pas interdits, mais empêchés, que Poutine se choisit ses opposants, qui sont souvent ses créatures, qui peuvent figurer aux élections comme de vrais faux concurrents, son système ne peut engendrer que des personnages comme Navalny. C'est un personnage, je l'ai dit, donc pour lequel le curseur, disons, est parfois insaisissable. Et tout sauf Poutine, ça l'amène parfois des alliances aux franges de l'extrême droite, mais aussi de la gauche. Et évidemment, ça a ses limites politiques. Et encore une fois, il ne s'agit pas de l'incriminer lui. Il s'agit de constater que c'est l'État, disons, de la démocratie ou je mets là des guillemets, russe actuel, qui ne peut produire que ce genre d'opposant.
Né face à une Europe néolibérale, Vladimir Poutine s'attire les sympathies de tous les ultra-conservateurs et libéraux du monde.
Oui, alors là aussi, à l'origine, il y a une erreur colossale, à la fois des États-Unis qui ont posé leur triomphalisme au lendemain du démantèlement de l'URSS, mais aussi de l'Union européenne, parce que au tout début de son règne, c'est qu'on vient d'appeler son règne, Poutine a fait des travaux d'approche vers l'Union européenne. Il a été refoulé, et donc effectivement, l'Union européenne a une part de faute dans la situation actuelle. Et ça continue, parce que comme elle n'est pas très attrayante pour les peuples, en particulier les peuples d'Europe de l'Est, on voit bien que Poutine s'offre, disons, comme une alternative. Il est le grand pourvoyeur, disons, de libéralisme, comme on dit, et des nationalismes qui entrent en conflit avec l'Europe néolibérale. Et donc une partie de la solution, disons, russe, une partie de la solution démocratique russe, elle tient, disons, au discours et à la politique que l'Union européenne saura tenir, non pas seulement à l'égard de la Russie, mais aussi à l'égard des peuples européens et des peuples de l'Est européen, pour les convaincre que l'Europe est pour eux la solution et qu'ils n'ont pas à se retourner vers cette Russie qui vante des valeurs ultra-conservatrices et très régressives.
Merci, Denis Siffer.
Merci à vous.
La une de Politis, luxe blanc et misère noire. Notre enquête 2 ans après l'incendie meurtrier de Courchevel et votre édito, Denis Siffer, l'effet Navalny. Denis Siffer, je rappelle que vous venez de publier un nouvel ouvrage, Gauche, les questions qui fâchent. C'est aux éditions Les Petits Matins.
C'était Rendez-vous avec la rédaction de Politis sur Radio Orient.